Continuons à parler des documents qui nous permettent de connaître Corde Domfront et de l'écrire plusieurs siècles après. Alors dans les premières émissions, première chronique, on avait présenté globalement ces documents. Et là, dans la précédente, elle avait été spécifiquement consacrée au fameux procès, enfin l'enquête menée contre le bailli Jean de Carcassonne à la fin du XIIIe siècle. Joli petit monument de 5 mètres de long de plainte en langage de l'époque. Alors aujourd'hui, nous allons continuer avec toujours les documents de l'époque de Robert d'Artois. Donc on avait dit dans l'émission précédente qu'à part l'enquête contre Jean de Carcassonne, on avait beaucoup de quittances, de gages, or quelques mandements, je reviens pas, on l'a déjà dit, compte ordonne de payer telle ou telle dépense, et beaucoup de quittances de gages, tel ou tel petit serviteur ou petit officier reconnaît avoir touché ces gages pour la période de A. Aujourd'hui, on va parler de choses plus, de documents, plus importants. On va parler des comptes qui ont été conservés, des comptes des baillis. Robert d'Artois, le comte d'Artois, qui demeurait très rarement sur place, il est venu plusieurs fois à Don Front, pour quelques semaines, ou des fois au plus quelques mois, mais généralement il n'est pas à Domfront, il a sur place donc un officier principal qui s'appelle un bailli. Alors, il y a des baillis dans son apanage d'Artois, à Hesdin, Fauquemberg, Arras, etc., etc. Mais il en a aussi un dans sa possession excentrée de Domfront. Alors ces baillis, on ne sait pas d'où ils viennent, c'est manifestement des gens qui sont instruits, qui savent lire, écrire, compter, même s'ils ne font pas les comptes tout seuls et qu'ils n'écrivent pas eux-mêmes les parchemins. Ils ont des serviteurs pour ça, ce qu'on appelle des clercs. Rien de religieux dans le terme clerc. Ça veut dire instruit. Donc ces baillis sont quand même des gens qui ont été recrutés, sur leur capacité. Alors ensuite, comment est-ce qu'ils sont arrivés là? Ils se sont présentés. Il n'y a pas de concours à l'époque. Bon, on n'en sait rien. Ces baillis restent pour un temps, c'est au bon vouloir de Robert II. Généralement, ils restent un peu comme un préfet de nos jours. Ils restent quelques années. Alors on connaît le nom de 8 baillis, mais les premiers, c'est juste des mentions. On est beaucoup plus précis pour les derniers. Donc pour les derniers, on a donc notre ami Jean de Carcassonne. Alors, s'il s'appelle Jean de Carcassonne, c'est qu'il était peut-être originaire de Carcassonne, c'est bien possible, allez savoir. Qui a été bailli à Domfront entre l'ascension 1288 et l'ascension 1292. Ce que je raconte là, c'est à peu près certain. Il est remplacé par un nommé Guillaume Carbonel. Alors là aussi, ça fait un nom, ça fait un peu méridional comme nom. Qui lui succède donc à partir de l'ascension 1292 et qui reste jusqu'à la Toussaint 1295. Puis après, il y a un trou parce que on ne sait pas, on n'explique pas. Il n'est pas remplacé directement, il n'y a pas de nouveau bailli de Domfront qui est nommé, et c'est le maître d'Artois, qui s'appelle Simon de Mourgard, qui assure la gestion du bailliage de Domfront, par intérim ou en plus de sa fonction. Donc un maître d'Artois, c'est l'officier principal de l'apanage d'Artois. C'est juste au-dessous du comte d'Artois, quoi. C'est vraiment le serviteur principal, le premier ministre, entre guillemets, du comte d'Artois. Il arrive qu'il soit d'ailleurs deux en même temps. Donc c'est à ce personnage-là qu'on a demandé d'assurer en plus la gestion particulière du bailliage de Domfront. On ne sait pas pourquoi, parce que Robert d'Artois est très occupé dans des affaires diplomatiques européennes. Il intervient en Italie pour le compte du roi de France. Est-ce qu'il n'a pas eu le temps de s'en occuper? Il y a une espèce de solution de secours. Et donc le Simon de Mourgard en question gère le bailliage de Domfront, donc de la Toussaint 1295 jusqu'à l'ascension 1299. Ensuite, lui succède un personnage mal connu qui s'appelle Simon de Cinq-Ormes. Alors, il y a des gens qui ont peut-être confondu Simon de Mourgard et Simon de Cinq-Ormes. Je pense que ce sont deux personnages différents. Simon de Cinq-Ormes, il reste pas longtemps, il fait juste 6 mois entre l'ascension et la Toussaint 1299. Il est remplacé par un Robert de Bellebrune. Alors lui, c'est quelqu'un qui est originaire d'Artois, parce que Bellebrune, c'est un petit village qui se trouve pas loin de Boulogne-sur-Mer. Et ce Robert de Bellebrune, lui, il arrive donc à la Toussaint 1299, et il reste jusqu'à la mort. C'est la mort de Robert II d'Artois qui interrompt ses fonctions, en juillet 1302. Donc ceux-là, on les connaît bien. On les connaît bien parce qu'ils ont laissé des comptes, justement. Un bailli rendait des comptes 2 fois par an, à l'Ascension et à la Toussaint. Donc, logiquement, on devrait avoir, si tout avait été convenablement conservé, on devrait avoir je ne sais combien de comptes d'années de présence de Robert II à Domfront. Enfin, je ne sais pas quand est-ce qu'il a mis au point sa comptabilité. Hein. Peut-être que ça a mis un certain nombre d'années à s'établir, parce que Robert II, il est seigneur de Domfront depuis 1259 ou 1262. Hein. On ne sait pas trop, il était tout jeune. Donc, peut-être que ça n'a pas été établi tout de suite. Mais enfin, même si on prend les derniers baillis, on devrait en avoir deux comptes par an, ça ferait quand même une jolie série. Et on en a en tout et pour tout que 8. J'ai noté, et je me demande si c'est gratuit, que les 8 comptes qu'on possède encore de nos jours sont tous des comptes excédentaires, sur lesquels les baillis ont fait de l'excédent financier, alors qu'il est évident, il est établi que d'autres périodes ont été déficitaires. Donc, est-ce que ces comptes ont été conservés pour cette raison-là, ou est-ce que c'est un hasard? Je ne sais pas. Je me contente de constater. Alors, donc, il nous reste 8 comptes. Un pour Jean de Carcassonne, c'est celui de la Toussaint 1289. Et il est aux archives du Pas-de-Calais, sous la cote A127, numéro 4. C'est un grand parchemin sur une grande peau unique, je ne sais pas combien, qui fait une cinquantaine de centimètres de haut, à peu près, dans ces eaux-là. Ensuite, pour Guillaume Carbonel, on a 3 comptes, mais dont 2 sont incomplets, parce que là, il n'y avait pas une grande feuille de parchemin, il y avait deux pots qui étaient cousus l'une à l'autre, et je ne sais pas, la couture a lâché, ou je ne sais pas pourquoi, mais enfin, il y en a 2 pour lesquels on n'en a qu'une moitié. Donc, on a celui de la Toussaint 1292, on n'a que la fin, et encore, elle est à peine lisible, le truc est tout pâle, l'écriture est quasiment illisible, mais enfin, bon, en se fatiguant beaucoup, on y est arrivé. Et on a celui de l'Ascension 1294. Alors là, c'est l'inverse. On a le début, mais on n'a pas la fin. Et puis, on a celui de la Toussaint 1294, qui, lui, est complet, parce qu'il était que sur une seule peau, même si seul grand parchemin, sauf qu'il est un petit peu mangé sur les côtés. Il nous manque un peu en bout de ligne, hein, quelques lignes ou un mot ou deux en bout de ligne. Alors là, ensuite, on a Simon de Morgard. Alors, Simon de Morgard, il gère différemment. 3 comptes de lui. On a l'Ascension et la Toussaint de 1296. Et on a l'Ascension 1299. Alors lui, il procède, c'est des grands rouleaux. Donc c'est des feuilles de parchemin de dimension plus modeste. Ça va entre une quinzaine de centimètres de haut. La plus longue fait 60, ce qui est déjà pas mal d'ailleurs. Mais enfin, généralement, c'est 20-25 centimètres. Et elles sont cousues les unes aux autres. Puis après, elles sont roulées. Et il fait toute l'année comme ça. Donc un rouleau, c'est une année calendaire. Donc l'année, par exemple, 1296, vous avez l'Ascension, un blanc et la Toussaint sur, je crois qu'il y a 13 parchemins cousus les uns aux autres. De même dimension en largeur, bien sûr, sinon ce serait louche. Bon, l'Ascension en 1299, comme il a fait qu'un compte, hein, Toussaint 1295, Ascension 1200, Toussaint 1298, Ascension 1299, il y a un rouleau, il y a 11 pots cousus les unes aux autres, mais il n'y a évidemment pas de Toussaint puisqu'il est parti. Après. Alors, à quoi ça ressemble, une comptabilité de bailli? Bah écoutez, c'est tout simple. Ça ressemblerait à une comptabilité d'association actuelle. C'est-à-dire qu'ils ont des recettes, ils enregistrent les recettes, on va voir les différents chapitres. Ils ont des dépenses. Eh bien, recettes moins dépenses égale bilan de l'année. Enfin, bilan du terme, des 6 mois de la demi-année. Donc, ça peut être positif ou ça peut être négatif. Ensuite, bah, ils avaient tant au départ, exercice. Ils ont fait plus ou moins, et eh ben ils comptent la somme de départ, plus ou moins le résultat de l'exercice, égale le nouvel exercice, le nouvel avoir à la sortie. Voilà, c'est aussi simple que ça, une association ferait ça de nos jours. Enfin, il faut bien comprendre qu'à l'époque, c'est relativement neuf, hein, les notions de budget, de comptabilité. Je ne vais pas dire que c'est une invention, je suppose que les Romains faisaient ça, ou même que les Grecs anciens faisaient ça. Mais enfin, pour le Moyen-Âge français, c'est pas extrêmement très très ancien. Les rois anglais étaient plus en avance, hein, de ce côté-là que les rois de France. Le premier budget de la monarchie française, ça date du règne de Philippe Auguste. Hein. On est au début du XIIIe siècle. Avant, ils avaient certainement des recettes et des dépenses, mais enfin, je ne sais pas comment ça s'organisait, et en tout cas, ce n'est pas conservé. Qu'on est quand même, quelque part, au début de la comptabilité, purement et simplement. Alors, qu'est-ce qu'il y a donc comme recettes? Normalement, il y a 4 chapitres de recettes. À cette époque-là, on fera beaucoup plus précis plus tard. Il y a des rentes, dont je ne sais pas à quoi elles correspondent, parce que souvent, il n'y a qu'un nom. De la rente de machin chouette. Bon, ben oui, mais enfin, il payait quoi, pourquoi ? Parce que c'est lui qui paye, puisque c'est une recette pour le comte d'Artois. Des fois, c'est associé à une fonction de la rampe du moulin de, donc on suppose que l'utilisation du moulin ou du pont, ou le passage sur le pont générait une ressource, et bon, et on payait. Des fois, donc, c'est un nom, des fois, c'est un lieu, de la rampe de la nouée au Châtelain. Bon, alors, c'est où la nouée au Châtelain, et surtout, pourquoi est-ce qu'elle payait une rente ? Bon, les rentes. Le deuxième chapitre, c'est les fermes. Alors les fermes, c'est pas, ça n'a rien de rural. C'est un système qui va durer jusqu'à la fin de l'Ancien Régime, jusqu'à la Révolution française. Quand il y avait une fonction à exercer, une fonction publique à exercer, elle pouvait être exercée, j'allais dire, en régie directe. L'autorité, le roi, en l'occurrence chez nous, le comte d'Artois, nommait un officier. Et puis voilà, l'officier faisait, encaissait les recettes, etc. Ou bien... Autre possibilité, on mettait aux enchères l'office et on l'affermait, c'est-à-dire qu'on demandait, on mettait aux enchères, on demandait à quelqu'un d'acheter la charge. Et ensuite, ce quelqu'un se remboursait sur l'exercice de la charge. Est-ce que je me fais bien comprendre ? Donc, l'avantage pour le comte d'Artois, c'est que il touchait sa somme tout de suite et il était sûr de la toucher. Et puis ensuite, il n'avait pas à s'occuper de la perception, hein, si c'était la charge des amendes ou la charge d'un moulin, etc., etc. Ensuite, c'était le fermier, donc le titulaire de la ferme. Hein, je répète, ça n'a rien de spécialement agricole. Le fermier qui devait, c'était à lui de se débrouiller pour faire fonctionner la chose et encaisser les recettes. Donc s'il le faisait bien, tant mieux pour lui. Ou s'il le faisait mal ou s'il tombait sur une période de mauvaise conjoncture, eh ben, mauvaise pioche, c'est lui qui avait perdu. Voilà, donc c'est le système de l'affermage qui faisait l'objet donc d'enchères, et ce sont évidemment des recettes pour le comte d'Artois. Le troisième chapitre de recettes sont les exploits, que vous retrouvez encore de nos jours quand on vous parle d'exploits d'huissiers. Alors en traduction moderne, ce sont souvent très souvent des amendes infligées par les sergents du plein. Alors les sergents du plein P-L-A-I-N comme plainte. L'équivalent de nos jours, ce serait, je sais pas moi, le policier municipal, voilà, hein, bon, qui peut infliger des amendes pour telle ou telle chose, je sais pas moi, ivresse, dégradation, mauvais comportement, violence dans la rue. Enfin, c'est rarement d'ailleurs spécifié parce que nous, on a la somme à l'arrivée, hein, on ne sait pas pourquoi. Donc ce qu'on appelle les exploits du plein, et puis on a également les exploits de bois. Ça, ce sont les recettes générées par les sergents de la forêt, les verdiers, qui sont des officiers forestiers, et puis leurs subordonnés, qui sont des sergents de la forêt. Il y en a pour la forêt d'Andenne et la forêt de Passet, qui, alors, soit infligent des amendes, du style « t'as coupé du bois ou t'as ramassé du bois que t'avais pas le droit de faire », amende. « T'as été chassé, forêt, t'avais pas le droit, amende. T'as été chassé le lapin, t'avais pas le droit, amende. » Enfin, ou éventuellement, si ce sont pas des fautes qui génèrent des amendes, ça peut être des... du style, oui, bah, t'as acheté du bois, voilà, on te le fait payer, quoi. T'avais le droit, mais t'as demandé gentiment et on te le fait payer. Bon, sans que ça, ce sont les exploits. Alors, très souvent, sur le document, on a la somme globale au recto, et il arrive, surtout pour notre ami Simon de Morgard, un peu pour Robert de Bellebrune, moins pour les autres, à moins que ça ait été sur un document annexe. Le verso est rempli des détails. Alors, vous avez des colonnes et des colonnes de noms avec un chiffre. C'est pas facile de savoir ce qui se passe. On sait pas. En matière de justice, par exemple, vous avez truc bidule pour un défaut dessous. Alors, un défaut, c'est n'importe quelle faute. Hein. C'est qu'on appellerait de nos jours une contravention. Alors, une contravention, pourquoi ? C'est pas précisé. C'est très rare qu'on ait une explication précise, parce que ce sont des documents comptables, c'est pas des pièces de procès, hein, ce qu'on a. Donc, ils s'étalent pas sur leur parchemin. Puis, de toute façon, le parchemin, il est rare, il est cher, donc on va si on peut éviter de consacrer des lignes et des lignes pour des bêtises. Bon, là, c'est purement comptable. Un tel a payé tant. Et on a, je répète, beaucoup de mal. Des fois, c'est du vocabulaire juridique de l'époque et j'ai pas encore réussi à savoir. Bon, une clameur de haro, oui, on sait ce que c'est. Il y a des fois un errement trop fait, je sais toujours pas ce que c'est, par exemple. Errement, c'est une action en justice. Trop fait, ça veut dire quoi ? Est-ce que c'est une amende pour procédure abusive, par exemple, du style t'as porté plainte, mais il n'y avait pas besoin de porter plainte, et paf, on te fait payer, ou des choses comme ça. Je sais pas, faudrait que des spécialistes de droit normand médiéval me donnent la réponse. Donc, qu'est-ce qu'on a dit ? Recettes, les rentes, les fermes, les exploits. Le quatrième chapitre, c'est les ventes. Alors, le comte d'Artois a des recettes en nature. notamment du blé, du froment ou de l'avoine, vente des poules ou des chapons. Il y a des terres qui payent des redevances en blé, il y a des terres qui payent des redevances en avoine, ou en blé plus chapon, ou en avoine plus géline. Il y a des œufs aussi. Alors, soit le comte d'Artois, il consomme quand il vient à Domfront. Donc il consomme les produits de ses redevances agricoles. Soit il les consomme, alors quand je dis il les consomme, ça fait beaucoup, mais le comte d'Artois, il vient pas tout seul. Hein. Il vient avec toute une cour itinérante de serviteurs spécifiques qui ne sont pas ses serviteurs de Domfront. Hein. Il y a son clerc, le clerc de madame, les conducteurs de chiens de chasse. Enfin bon, manifestement, ils sont entourés de beaucoup de monde, ils consomment beaucoup et ça coûte un maximum quand ils viennent à Domfront. Et donc, quand le comte d'Artois est pas là, éventuellement, comme on a des capacités de stockage limité, on revend les produits de la ferme, voilà, tout ça. Enfin, les produits des redevances, et ça fait des recettes. Voilà, donc ça, c'est les recettes, et on additionne tout ça. Et puis, il y a des chapitres de dépenses, et généralement, il y en a trois. Donc, il y a d'abord les dîmes. Alors, les dîmes, c'est bien connu, c'est la redevance qui est due au clergé, hein. Normalement, c'est un dixième. C'est ce que veut dire d'ailleurs le mot dîme, hein, décimus en latin. C'est un dixième des revenus qui est reversé au clergé. Alors le clergé, ici, c'est essentiellement l'abbé de Lonlay, qui touche des redevances, mais alors pas sur tout. Sur la prévôté ou sur certaines amendes, mais pas sur tout. Donc il y a les dîmes. Ensuite, il y a les gages, ça c'est facile à comprendre, hein. Le comte d'Artois, il a des serviteurs locaux, hein. il a des sergents de ville, il a des sergents de la forêt, il a un garde au château, hein, un portier au château, etc., etc. Bon, tous ces gens-là touchent des gages, hein. Il y a une fonction, c'est que c'est généralement c'est dit, hein, c'est 10 deniers par jour, 12 deniers par jour, des fois plus, des fois moins, 6 deniers par jour pour des gens non qualifiés. Et ensuite, on les retrouve souvent sur les quittances. Hein. Après, il n'y a plus qu'à faire l'addition. Tant de jours à 10 deniers égale tant de deniers. Vous additionnez tout ça et vous avez les gages. Et puis, il y a le dernier chapitre. C'est un chapitre fourre-tout dans lequel il y a tout, qui s'appelle les mises. Et là-dedans, il faut faire le tri nous-mêmes parce qu'il y a là-dedans des déplacements. Je sais pas moi, le bailli s'est déplacé pour rendre compte de, où il a été rencontré un autre bailli, où il a été à la cour de justice ecclésiastique du Mans, par exemple, pour telle ou telle raison. Bon, il touche une indemnité, donc ça se compte. Donc il y a les mises, et dans les mises, il y a les dépenses qui nous intéressent beaucoup, nous, à Domfront, et à l'association de restauration du château, qui sont les œuvres, c'est-à-dire les travaux au château, ou pas forcément d'ailleurs au château, il peut y avoir en ville, il peut y avoir dans les différents manoirs, dans les différents des environs, dans les ponts. Enfin bon, si c'est dans les comptes d'un bailli de Robert d'Artois, c'est que le comte d'Artois a payé, hein, enfin, ou ses agents ont payé. Alors est-ce qu'ils ont payé parce que c'était chez eux ou est-ce que c'est une gratification? Voilà. Le comte d'Artois, il paye pas pour restaurer le manoir d'un vassal privé qui appartient à un vassal, à moins que le vassal soit venu faire pleurer auprès de lui en disant j'ai besoin d'aide, enfin on appelle ça de nos jours une subvention. Alors Simon de Morgard, lui, fonctionne différemment, il détaille, il a des chapitres spécifiques d'œuvres, donc là c'est vraiment les travaux qui sont tous regroupés, et le reste, c'est des dépenses de bailli, au sens large, bailli IE, pas dépenses de monsieur le bailli, dépenses de l'abbaye, c'est-à-dire que nous on dirait les dépenses du bailliage, des dépenses générales. Donc voilà, donc ce sont des documents extrêmement importants, extrêmement intéressants, ces comptes des baillis de Robert II. On est extrêmement content de les avoir parce que ça nous apprend quand même des tas de choses, hein, sur indirectement vous avez les bâtiments du château et même d'autres bâtiments, vous avez les noms de serviteurs, vous avez savoir si c'était rentable ou pas. Pas évident du tout de dire si le comté de terre de Domfront était rentable pour le comte d'Artois ou pas. Oui, globalement, oui. Mais alors, de combien ? On s'aperçoit qu'il y a des variations d'un exercice sur l'autre qui, des fois, on arrive à expliquer, des fois, on n'arrive pas à expliquer. Dernière chose à dire sur ces comptes, comme certains agents publics de nos jours, ça existe encore, cet argent n'appartient pas directement au comte d'Artois. En fait, le bailli gère sur ses fonds propres. C'est son argent, donc comme ça on présuppose que puisque c'est son argent, il fera attention, Il ne fera pas n'importe quoi, parce que s'il y perd, c'est son fric qui sera en cause. Et le bailli, ensuite, reverse l'excédent au compte d'Artois. C'est encore je sais qu'il y a encore certains offices, je crois que les intendants d'établissements scolaires, je ne sais pas s'ils ne sont pas responsables sur leur propre denier, encore de nos jours. Hein. C'est-à-dire que si ça se passe mal, l'État se retournera contre eux sur leur propre fortune. Donc à l'époque, c'est l'avoir du bailli. Donc le bailli a fait ses comptes, il dit j'avais tant au départ, j'ai fait tant de recettes, donc j'ai tant au total, auquel je déduis mes dépenses de l'exercice, et donc maintenant il me reste tant. Alors des fois quand on a la chance d'avoir deux comptes qui se suivent, il me reste tant, on le retrouve effectivement en tête compte suivant, ce qui est parfaitement logique, si on ne trouve pas la même somme, je me poserai les questions. Et quand on a de l'écart, parce qu'on a un compte, il se passe 3 ou 4 années avant d'avoir le suivant, on n'y peut rien. On est obligé de dire que telle époque, il restait tant, et puis que 3 ou 4 ans plus tard, il repart avec tant. Donc, entre-temps, il a fait de l'excédent ou du bénéfice, ou du déficit. On ne sait pas absolument pourquoi. On est obligé de constater. Alors, on peut faire aussi une moyenne par terme. J'avais 3 ans, donc ça fait 6 termes. J'ai moins temps divisé par 6, ça fait un déficit moyen de temps par période, par demi-année. Mais bon, c'était peut-être pas la réalité, hein. On n'en sait rien. Voilà, et puis donc dernière chose à dire sur ces comptes. Quand le comte d'Artois vient, on fera peut-être une chronique sur les comtes d'Artois à Domfront, leur déplacement. Donc j'ai dit tout à l'heure, ça coûte, en français moderne, ça coûte un max de un pognon de dingue. Parce que, je répète, il ne vient pas tout seul. Et globalement, ça engloutit la recette ou même l'avoir d'un bailli. Donc, par exemple, la dernière année, juste avant sa mort, la comtesse d'Artois arrive à Domfront le 16 janvier 1302 en calendrier moderne. L'année changeait à Pâques, donc à l'époque c'était 1301. Enfin, pour nous c'est 1302. Et son mari, le comte d'Artois, Robert II, l'a rejoint. Je me souviens plus les dates exactes, au mois de... J'ai pas amené mes notes, enfin peu importe. Hein, il l'a rejoint pour quelques semaines, un mois du côté de mois d'avril-mai. Puis il repart, et puis elle reste là, et puis il repart pour aller se faire tuer à la bataille de Courtrai, en 1302. Et donc, quand elle apprend sa mort, la comtesse d'Artois, elle prend ses clics et ses claques, et elle retourne d'urgence, soit à Paris, soit en Artois, pour régler les affaires de succession. Et bon, enfin, donc, elle est restée, elle, de janvier à juillet, et lui, il est resté un petit mois, ou au moins 3 semaines. Hein. Et ça coûte, ça met à peu près l'excédent du bailli, c'était Robert de Bellebrune, l'avoir du bailli, qui était d'environ 2500 livres, à peu près, dans ces eaux-là, ça le met littéralement à zéro. Voilà. tellement ça coûte. Donc le séjour du comte d'Artois lui coûte l'intégralité de ce qu'il avait pu mettre de côté jusque-là. Donc voilà, pour les comptes, la chronique d'aujourd'hui consacrée aux comptes de Robert II d'Artois, qu'on est bien content d'avoir, parce qu'après ce sera autre chose, on en a beaucoup moins, ou alors faudra attendre la période de la guerre de Cent Ans pour retrouver aussi précis. C'est ce qu'on verra dans une chronique suivante.